La sophistication technique de certains PLU patrimoniaux, de par la précision de leur annexe patrimoine et de leur outillage réglementaire, pose la question de leur intégration dans une planification urbaine plus souple. Une partie des débats nationaux et locaux incite à s'orienter vers un droit de l'urbanisme allégé, partiellement déréglementé, conduit par le projet davantage que par la règle technique. Il y a 2 ans, sortait un petit ouvrage intitulé « Le droit nuit gravement à l'urbanisme », servant parfaitement la mode actuelle sur le besoin de simplifier le droit de l'urbanisme. Celui-ci étoufferait la création architecturale comme le développement urbain. Le ministère en charge de l'urbanisme soutient lui-même cette évolution, en ayant fait adopter en 2015 et 2016, à l'occasion de la recodification de la partie législative du Code de l'urbanisme, un nouveau régime juridique des PLU-PLUI, permettant en théorie à la fois plus de souplesse dans l'usage de certains outils, comme les destinations affectées au bâtiment par exemple, mais aussi des règlements moins techniques. Pour le moment, les collectivités ont largement intégré la nouvelle structure du règlement, reposant sur des thématiques plus lisibles, mais elles n'ont pas franchi le pas d'une réduction du volume réglementaire par des règles plus qualitatives. Néanmoins, quelles perspectives envisager en la matière? Autrement dit, comment le PLU patrimonial pourrait-il s'accommoder de ces nouveaux PLU favorables à l'urbanisme de projet? Cela pose quelques questions techniques, comme celle de la structure du règlement, de la place des règles qualitatives et ou alternatives, voire même de la possibilité de suppression totale d'un règlement de zone dans certains cas. La nouvelle structure du règlement, prévue à l'article L151-18, largement présente pour le coup dans les PLU étudiés au titre du programme de recherche, des PLU adoptés depuis 2016, cette nouvelle structure ne pose aucun problème à l'ambition patrimoniale. Plutôt que de cantonner l'approche esthétique des nouvelles constructions à l'ancien article 11 des POS ou des PLU, article 11 dédié à l'aspect extérieur des constructions, le fait de consacrer désormais un chapitre du règlement du PLU à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère peut ou devrait permettre une plus grande vigilance de la collectivité et des pétitionnaires au respect du patrimoine, composante de l'environnement ou du paysage entendu au sens large. Mais cela est vrai pour autant que la zone soit couverte par un règlement. La réforme adoptée en 2015-2016 permet en effet à la collectivité de se dispenser d'un règlement pour certaines zones, renvoyant alors au RNU, au Règlement National d'Urbanisme, pour l'instruction des demandes de travaux. De manière presque étonnante, le ministère en charge de l'urbanisme souligne, dans certains documents qu'il a produits pour accompagner cette réforme, qu'il existe alors une forme de risque pour le patrimoine, en précisant que cette absence de règlement de zone peut être complétée par l'adoption d'une OAP patrimoniale telle que prévue par l'article R151-7. L'idée est que la présence ponctuelle, donc pastillée, de patrimoine vernaculaire dans des territoires plutôt ruraux ou périurbains ne justifie pas l'adoption d'un règlement de zone patrimoniale, fondé en particulier sur l'utilisation de l'article L151-19. Une OAP pourrait suffire alors à leur identification et, le cas échéant, à leur protection. C'est néanmoins oublier qu'une OAP ne s'impose aux demandes de travaux que dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Il s'agit d'une vraie limite, nonobstant le fait que la présence d'une OAP patrimoniale impose à l'autorisation d'urbanisme de comporter une motivation explicite quant à la qualité des travaux demandé eu égard aux éléments patrimoniaux identifiés par l'OAP. Pour un territoire entré dans une démarche de PLUI, il peut donc sembler peu prudent de se dispenser d'un règlement de zone sur un espace doté de patrimoine, même vernaculaire, car il est justement celui qui fait la singularité de la commune. Depuis 2016, le nouveau règlement de PLU-PLUI peut également s'orienter par sa rédaction vers des règles dites qualitatives et alternatives. Alors que l'on connaît traditionnellement le règlement du PLU comme un texte impératif et technique, pour ne pas dire mathématique, règles de hauteur, d'emprise, de distance, etc. Il s'agirait alors de réglementer l'objectif à atteindre et non directement les constructions. La règle qualitative renvoie uniquement vers une obligation de résultat sans imposer le moyen d'y parvenir. La règle alternative, quant à elle, consiste à prévoir, à côté d'une règle générale, une ou plusieurs règles subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que les cas courants pour lesquels la règle générale est adaptée. Cette nouvelle manière de concevoir le règlement de PLU questionne le patrimoine. L'intérêt du PLU en la matière passe justement par sa précision, tant dans l'identification que dans les prescriptions, soit par élément patrimonial, soit au sein des dispositions réglementaires. Il semble donc illogique d'admettre en la matière des règles qualitatives incapables de garantir techniquement l'intégrité des éléments patrimoniaux. Si la collectivité souhaite intervenir au titre d'un urbanisme de projet, il est alors plus logique de négocier les objectifs en dehors du PLU et en amont de la procédure d'autorisation d'urbanisme. C'est ce que font déjà certaines collectivités au travers de commissions locales rassemblant élus, techniciens territoriaux, urbanistes, citoyens, opérateurs immobiliers et même parfois architectes des bâtiments de France, dans des cas où leur intervention n'est pourtant pas obligatoire. Cette concertation préalable que le PLU ne peut lui-même juridiquement organiser peut être le meilleur temps pour l'urbanisme de projet, sans pour autant se substituer à un règlement classique de PLU, filet de sécurité et arme de dissuasion.